Alors bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au Centre Sèvres. S'il y en avait qui ne connaissent pas encore cette maison, donc c'est le Centre Sèvres et les facultés jésuites de Paris. Donc on a essentiellement une faculté de philosophie et une faculté de théologie. Mais on peut dire que plus largement, c'est un lieu qui est ouvert à la réflexion sur les questions de foi, de société. À toutes les personnes de bonne volonté qui cherchent à réfléchir sont en général heureuses de le faire avec nous. Et ce soir, eh bien, nous accueillons James Allison, théologien britannique, qui va donc nous faire une conférence sur le thème « Catholique et homosexuel, un accès particulier pour vivre le credo ». Et comme c'est le père Philippe Endine qui l'a invité, eh bien, c'est lui qui va nous le présenter.
Merci Pierre. C'est la seconde fois que j'ai l'honneur d'accueillir ici mon ami James Allison. Nous nous sommes connus il y a plus de 40 ans au Mexique. Tous les deux, nous faisions des aventures pieuses et folles. L'aventure de James était charismatique et dominicaine. Le mien était autorisé par toute la dignité d'une supérieure jésuite. Mais c'était quand même faux. Et depuis ce temps, nous sommes amis. Je suis très fier de pouvoir dire que je l'ai connu avant qu'il ait devenu renommé. Le travail de James, comme nous savons tous, commence avec le travail de René Girard. Je suppose que ce travail, même si Girard était membre de l'Académie française, aurait été resté seulement connu entre les théoristes littéraires francophones. Si ce n'est que un théologien germanophone suisse, Raimund Schwager, ancien de cette maison dans le sens qu'il était étudiant à Fourvière, avait lu le travail sur le sacrifice de Girard et a vu les possibilités pour la théologie, surtout pour la théologie de salut. Mais c'est James qui a rendu l'approche girardienne à la théologie, connue et fructueuse dans le monde anglophone. Et en faisant cela, il a introduit deux nouveaux accents. Le premier, grâce à sa formation dominicaine et surtout à la prédication, était une grande sensibilité pour le texte du Nouveau Testament. Le deuxième, c'est l'intégration plus explicite avec l'expérience d'un jeune homosexuel dans une église et une culture tout à fait respectable, mais qui ne savait que marginalisé, réprimé, même persécuté. Les personnes avec les orientations pas standard. James a fait des expériences éprouvantes, longues expériences difficiles. Il les raconte parfois dans ses livres. Mais il nous a aidés à trouver une nouvelle manière imaginer l'évangile précisément à la base de ce type d'expérience. Il peut parler avec tout le témoignage de sa vie d'une foi qui est au-delà du ressentiment. il a trouvé des manières très créatives de lire l'Évangile comme signe d'un Dieu qui refuse absolument d'être la projection des dynamismes agressifs qui façonnent chaque société humaine, mais qui nous ouvre une nouvelle voie. Sur cette base, il ne s'agit pas simplement de la théologie du salut, comme avec Raymond Schwager au début, mais d'une nouvelle manière de penser toute la théologie et même le credo. C'est James qui nous a donné plusieurs ressources pour voir comment cette reconstruction de notre foi peut procéder. Nous sommes très heureux d'accueillir ici au Centre Sèvres ce soir pour écouter ces idées les plus récentes. James, bienvenue.
Merci, merci beaucoup, Philippe.
Voilà, donc on a prévu que James ait à peu près trois quarts d'heure, une heure, enfin le temps dont il voudra disposer pour pouvoir nous parler, mais qu'on garde donc quasiment toute la deuxième heure pour pouvoir ensuite poursuivre par des échanges et des questions. Donc, James, merci beaucoup. Merci aussi à tous d'être venus ce soir. Et donc, nous t'écoutons.
Bon, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Je voulais remercier en premier lieu le Centre Sèvres pour m'avoir accueilli et pour m'avoir accueilli pour parler d'un thème qui est sensible et qui est capable de produire des réactions bizarres. J'espère qu'on pourra survivre la tentation de ces choses-là et parler sereinement et en adulte sur les thèmes qu'on va discuter ce soir. Deuxièmement, je voudrais remercier surtout Philippe, vieux ami, comme il a dit, pour une présentation remarquable. Je lui remercie beaucoup, beaucoup pour ce qu'il a dit, surtout l'emphase sur l'amour pour le Nouveau Testament et pour trouver que c'est à la base de la foi chrétienne qui se résoudent ces questions. Il ne s'agit pas d'une plaidoyer spéciale pour traiter la question gay, mais il s'agit de comprendre bien l'origine même, le nexus mysterium de la foi chrétienne qui nous permet d'avancer dans ces questions. Et je lui remercie beaucoup, beaucoup pour avoir dit ça. Et je lui remercie aussi l'amitié qui m'a donné d'appui moral dans des moments très difficiles dans le passé. Et je suis très fier d'être ici avec lui ce soir. Une petite question. Pour nous les Anglais, on imaginait que le 30 mai, on fêtait Saint-Jeanne d'Arc. Quand est-ce que vous fêtez Saint-Jeanne d'Arc?
Le même jour.
C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est vert dans le calendrier? C'est bizarre, n'est-ce pas?
C'est bien ce qu'on fête effectivement, liturgiquement en tout cas aujourd'hui. Donc peut-être que certains d'entre nous ont célébré.
Ah! Ah!
Mais dans le calendrier liturgique de l'Église de France. Tout à fait.
Ah non.
Oui. Non, c'est sûr, hein. C'est ça.
Bien, de toute façon, en honneur de Saint-Jean d'Arc, ici, le petit anglais s'y offre au boucher pour vous, les Français. Donc, c'est une manière de plaider votre bénévolence. Suite à ce qui a dit à Philippe, je crois que le bon lieu pour commencer à parler de cette question, la question de la vie d'une personne homosexuelle dans l'Église actuellement, est de partir pour la compréhension du sacrifice. Pourquoi? Parce que pendant les 35 ans que je viens parlant de ces questions au monde anglophone, j'ai reconnu la même chose toutes les fois, que les discussions qu'il y a dans toutes les églises, dans toutes les confessions sur cette question, la question gay, comme on dit en anglais, est un peu, comment on dit ça, un peu extra. C'est une manière de transférer autre angoisse, et c'est l'angoisse sur l'effet du sacrifice du Christ. Est-ce que si on est libéral en matière homosexuelle, on sera en train de devenir libéral en matière de la puissance du mort, de la mort du Christ? Et plusieurs des hauts représentants des églises protestantes m'ont dit exactement, c'est exactement ça. On dit en anglais proxy discussion, une discussion par proxy. Quelqu'un peut m'aider? Par procuration. Oui, c'est une discussion par procuration d'autre chose. Donc, ce que je veux faire, je veux vous donner, et je vois que d'ici à une semaine exactement, vous aurez un autre cours sur cette question du sacrifice, ici au Centre Sœur. Je veux vous donner deux images différentes du sacrifice, parce que je crois que selon on comprend le sacrifice, on est capable ou non de se faire bouger sur cette question. C'est vraiment quelque chose qui va au centre de la foi chrétienne. Je vous donne, si vous voulez, une version un peu parodique, mais pas trop, de quelque chose que vous aurez, que vous reconnaîtrez au moins, sans beaucoup de difficultés. Mais je crains qu'il y ait beaucoup d'effets sur la vie morale et privée des personnes de ce qu'on est typiquement reconnaît. Et c'est le vieux sacrifice. Vous savez très bien que le monde a été créé, c'était bon. Il y a la faute d'Adam, après laquelle tout est devenu abîmé. Quelqu'un a dû payer pour ça. Les personnes humaines ne pouvaient pas. Jésus a dit à son père, eh bien, moi, tu sais, je suis Dieu, donc je peux me faire homme, et après ça, avec ça, je peux faire une sacrifice humaine à vous pour apaiser votre juste rage contre les êtres humains pour leur faute. Et le bon Dieu a pensé un peu, il a dit, tu sais, je ne sais pas si ça va me satisfaire beaucoup, hein. J'ai beaucoup de rage. Et ma miséricorde, oui, c'est bien, mais ma justice, de l'autre façon, je ne sais pas. Mais Jésus lui a convaincu, et donc Jésus est venu payer le prix. Et le bon Dieu lui a dit, c'est bien. Maintenant, tous ceux qui croient en vous, croient en toi, peuvent être sauvés. Vous êtes une espèce de œil au centre de l'ouragan. Mais ma rage persiste pour ceux qui sont dehors. Eux, sur eux, mes comment s'appelle, les courures dont parle le le fameux chanson de Noël du Père, vont tomber. Donc le christianisme consiste à recevoir le sacrifice du Christ qu'il a dû payer pour pacifier la rage, apaiser la rage de son père. C'est bien, vous avez écouté cette version avant, j'imagine. Et donc, dans ce monde-là, la messe serait une répétition de ça, le prêtre qui offre le victime à Dieu. Il y a une chose qui est très importante avec cette version. Il y a toute une notion de bonté qui vient de ça. La bonté vient pour ceux qui sont dedans l'Église. L'Église, ce sont ceux qui sont couvert par le sang de l'agneau, dans l'Église, donc, on est les bons. Et comme le sacrifice a été payé, on sait très bien quelle est la liste de péchés pour lequel le sacrifice était fait. La liste se trouve, grosso modo, dans l'écriture hébreu. Mais comme en bon gentil, on organise ça un peu pour se... On modère ça un peu. Mais en général, le menu était là, le paiement est là. Maintenant, il ne faut pas surtout changer le menu. Et curieusement donc, le sacrifice sert pour créer le groupe des bons. Et on sait très bien qui sont les bons, parce qu'ils ne sont pas comme les mauvais. Et les mauvais sont ceux qui font les choses que la liste dit qu'ils ne doivent pas faire. Et si on dit, mais tu sais, cette liste de choses ne me convainc pas tellement. Il y a des choses là-dedans que vraiment je ne crois pas qu'ils sont des péchés. Oh, monsieur est en train de suggérer que Jésus n'a pas payé le bon prix. Vous êtes en train de mépriser le sacrifice de notre Seigneur. C'est toute la force de chantage émotionnel d'un certain catholicisme sort avec cette vision. J'imagine que vous connaissez ça. Vous connaissez bien, ce n'est pas difficile. Il y a des prédications, surtout en carême, qui vont dans le sens « Moi, j'ai autant souffert pour vous et vous continuez à pécher. » Ça existe. Oh, peut-être seulement dans le monde anglophone. Peut-être en France, vous avez des prêcheurs tellement bons que ça n'existe pas. Eh bien. Mais pourquoi ça, c'est important? La notion de sacrifice ferme la notion de bonté et fait inquestionnable ce qui est un péché. C'est-à-dire, il fait impossible à apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que ce qui était mauvais a été dit par Dieu. Dans la version protestante, il se trouve dans la Bible. Dans la version catholique, il se trouve dans la Bible, mais surtout dans le magistère de l'Église. Un peu, ils changent ça un peu. Et vraiment, on n'a pas, en petit chrétien, on n'a pas le droit de questionner ça. Parce que ça, c'est suggérer que la bonté de ceux qui sont couverts par le sang de l'agneau n'est pas la vraie bonté. Vous voyez, comme une version de sacrifice peut enfermer une notion de bonté et faire impossible la connaissance des nouveautés. Et ça, au moins au monde anglophone, c'est comme ça fonctionnait dans les débats. Si on suggère qu'il y a quelque chose à apprendre sur ou à partir des personnes qui se disent homosexuelles, on est en train de mépriser le paiement juste que le Christ a fait pour nous. Parce qu'on suggère que le prix n'était pas bien payé, parce que la liste des péchés n'est pas ce qu'on pensait qu'elle était dans la Bible ou, version catholique, selon le magistère de l'Église. Et là, c'est une manière de maintenir des gens ensemble sans réfléchir à ces questions, mais de devenir très fâché quand quelqu'un les questionne. Eh bien, si René Girard nous a enseigné une chose, la chose principale qu'il nous a enseigné, c'est comment fonctionnait le sacrifice dans le monde ancien et comment la mort du Christ est une subversion à partir de dedans du mot sacrifice dans le sens typique. Pourquoi? Il ne s'agit pas de personne sacrifier Jésus au Père, ce qui déjà est binitaire et non pas trinitaire. Il s'agit plutôt de Dieu lui-même, en personne humaine, entrer en notre lieu où nous sommes typiquement habitués à sacrifier des gens, c'est-à-dire la violence qui a besoin d'être apaisée est une chose purement humaine. C'est Dieu qui entre lui-même, c'est ça l'incarnation, Dieu qui entre lui-même en personne humaine, au milieu de notre violence, dans un mort qui donne l'impression d'être un sacrifice dans le sens ancien, ça peut être interprété dans un sens, mais qui n'est qu'un meurtre. Qui n'est qu'un meurtre fait par une typique, confusion de tourba, de mob. De la foule, exactement, pardon. La foule, comment est-ce que j'ai oublié ça? Un mot tellement important pour le monde girardien. C'est un typique mécanisme de foule avec une confusion du religieux et du civique ensemble, paf, le romain, le juif, pouf. Et c'est pour nous montrer, c'est exactement ça, ce que nous, les humains, faisons. Et non, je ne le prends qu'entre vous. C'est ça ce qui est extraordinaire. Dans le sens girardien du sacrifice, il s'agit de tous les vecteurs en sens contraire. C'est Dieu qui se sacrifie à nous, et non pas nous qui sacrifions quelqu'un à Dieu. Comme si Dieu avait beaucoup de rage qui devait être satisfait. Ici, les gens qui vivent avec une insatisfaction sur la justice, ils ont une tendance à faire la justice de manière très violente et de rejeter des gens et de les mettre dans les lieux de la honte, de la peur, du mort, de la mort. C'est nous qui avons cette tendance et Dieu occupe cet espace pour nous. Et en l'occupant, et ça c'est une des choses très différentes de la version antérieure, en l'occupant, il ne s'agit pas seulement de payer quelque chose, parce que si vous payez le prix, je pouvais, imaginons dans la version antérieure, la première version, je peux me dire en petit officier colonial britannique, vous pouvez imaginer, la théologie, c'est surtout à partir du colonialisme britannique. Comme petit officier colonial britannique, je dis, eh bien, il y a tous ces gens-là qui ne savent pas se comporter. Je dois faire un sacrifice pour eux. Je ne les aime pas du tout. En vérité, ils ne me plaisent pas. Ils sont vraiment minables. Mais je dois faire ça. C'est mon devoir. Donc, je vais me laisser sacrifier pour eux, pour payer le rançon. Ça peut montrer que quelqu'un, par un devoir, peut faire quelque chose tout en n'aimant pas du tout aux gens pour qu'il est en train de faire la chose. Ça montre une arrogance et une supériorité moraliste envers la chose. Mais dans l'autre version, il y a quelque chose de plus intéressant. Parce que c'est Dieu qui entre dans la place de la honte, de misère, de la précarité, de ceux qui n'ont pas tout le pouvoir, des condamnés à mort, et ils meurent. Et il fait ça en montrant qu'il leur aime. C'est parce que c'est exactement à cause de leur aimer qu'il fait ça. Il ne s'agit pas d'achever quelque chose, mais d'occuper une place qui est déjà maintenant occupée pour toujours, la place de la honte et de la mort. En nous aimant, disons « je vous veux bien ». En anglais « I like you ». En anglais, nous distinguons entre aimer, to love, and to like. Je ne sais pas comment vous traduisez ça. Comment vous traduites ça? Tombez bien aux yeux de quelqu'un. Vous tombez bien à mes yeux. Ça veut dire quelque chose en français? Non. Non. Like. Aimez bien. Mais vous avez aimé et aimez bien. Mais pourquoi j'essaie de faire la différence? Parce que, au moins dans la vie, il y a une différence. Si on parle d'amour, c'est très bien. Mais il y a toute une série de manières de, je ne sais pas, de chantage émotionnel qu'on fait avec le mot amour. Je vous aime tellement qu'il faut que vous portiez de telle ou telle façon, n'est-ce pas? Et si vous ne portez pas bien, donc je ne vous aimerai pas. Mais si je t'aime bien, ça n'exige pas rien de toi. Est-ce qu'on peut faire la distinction comme ça en français? C'est-à-dire, mon langage corporel montre que je suis bien à l'aise avec vous. Je n'ai pas aucun désir de vous contrôler. Plutôt, je suis curieux pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que va être l'aventure de votre vie? C'est une manière d'aimer qui est de côté à côté, pas de haut en bas, n'est-ce pas? Et l'incarnation n'est que l'amour de côté à côté et non pas de haut en bas. C'est de ça qu'il s'agit, c'est la chose plus importante. À partir de du moment où le Père a dit aux écouteurs, écoutez mon fils, faites ce qu'il vous dit. À partir de la voix au baptême et dans la transfiguration, toute la voix paternelle de Jésus, du Père, est devenue fraternelle envers nous. Et donc, c'est une chose de curiosité pour voir comment est-ce que vous allez trouver quelque chose. Le deuxième secret de cette version de la rédemption, si vous voulez, le sacrifice de Dieu envers nous, occupant l'espace pour nous, c'est pas seulement le fait que l'amour est partageable de côté à côté, mais c'est le fait qu'il permet de découvrir des choses. Pourquoi? La version un peu aztèque, si vous me permettez le mot, du paiement au Dieu enragé ferme la possibilité des connaissances parce que le prix juste a été payé et ça ferme des choses. Mais cette version-ci met quelque chose à l'œuvre, qui est l'ouverture constante de la connaissance. Pourquoi? Parce que si justement le problème de notre violence et notre tendance à former des groupes, des bancs, en contraste avec des gens mauvais, si juste là, c'est notre difficulté, le fait que on a déjà la victime qui nous pardonne présent chez nous, veut dire que chaque fois que nous essayons de répéter le mécanisme sacrificiel, de nous réunir par contraste avec quelqu'un, il y a la petite voix de Jésus qui nous parle et dit « Ah, je vois bien, vous avez fait ça déjà avec moi. » Est-ce qu'on ne peut pas jouer un nouveau jeu? Est-ce qu'il n'y a pas des manières plus jolies d'être ensemble qu'en faisant des cercles unanimes contre des mauvais qu'on jette dehors? Et petit à petit, on commence à dire, mais c'est vrai, notre manière d'être ensemble était plutôt sacré que saint. Pour faire une distinction que et Emmanuel Levinas et René Girard ont employé. La distinction entre la sacralité et la sainteté, non? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau si on se rend compte que notre unité et notre bonté dépend de certaines personnes qui sont dehors? Et en général, c'est comme ça, c'est par ça qu'on apprend. Et c'est là, à mon avis, une des vraies contributions de Girard à la question de la relation entre la théologie et la connaissance. C'est dévoiler l'effet du mécanisme bouc émissaire une fois que la subversion chrétienne commence à opérer. Et sur, c'est sa fameuse phrase qu'il dit, on n'a pas cessé de brûler les sorcières parce qu'on est devenu plus raisonnable. Parce qu'on a reçu la raison grâce aux lumières. C'est parce qu'on a perdu la foi en la dangerosité de certaines vieilles femmes qu'on est devenu plus raisonnable. C'est-à-dire le changement de relationnalité précède le changement de rationalité. En cessant de faire l'unité contre la sorcière, on s'ouvre à des possibilités d'apprentissage sur la réalité. Par exemple, au moment où on cesse de croire que ce sont les sorcières qui causent les tempêtes de grêle, qui ont détruit le champ de mon voisin. Et donc, vraiment, c'était elle qui l'a fait. Hein. Au moment où on cesse de croire que c'était vraiment possible, on devient ouverte à la possibilité d'avoir des causes pas sociaux. Pour les tempêtes de grêle. Si la cause des tempêtes de grêle est sociale, donc il faut tout simplement tuer le mauvais ou la mauvaise. C'est simple. Mais quand on ne croit pas dans la culpabilité du mauvais ou de la mauvaise, on devient ouverte à la possibilité à des causes pas sociales, comme par exemple météorologie. Mais c'est ça, c'est un apprentissage très important, où on sait trop bien les sources de la bonté, on n'apprend rien du vrai. Ou on craint, ou on a le suspect que possiblement notre bonté est fausse et possiblement cette personne n'a pas causé ça. On devient capable de faire des autres questions sur comment est-ce qu'il fonctionne les choses. À mon avis, pour la foi chrétienne moderne, c'est absolument important que nous ayons une manière de conjoindre l'aperture à la connaissance et la foi. Une manière relationnelle de comprendre ça. Parce que ça va être très important à la mesure où chaque génération va nous demander une version historique de notre foi, et non pas simplement de propositionnel. C'est absolument central. Eh bien, pourquoi donc je fais ça? J'espère que c'est évident, parce que entre toute une série de possibilités de connaissances sur la question homosexuelle, on a suivi basiquement la même route que chez les sorcières. Ça a pris beaucoup de temps pour les sorcières. Est-ce que vous savez que plus de gens sont mortes pour sorcières entre 1610 et 1640 aux forêts noires que dans tous les royaumes du roi de l'Espagne sous l'Inquisition espagnole entre 1492 et 1807. Plus de personnes sont mortes, mais par lynchage, La différence, c'est que l'Inquisition maintient les archives. Donc, l'Inquisition, on sait qui a été condamné et pourquoi. Avec les lynchages des sorcières, typiquement, les lyncheurs ne prennent pas des notes. Mais on calcule maintenant ça. C'est pour simplement pour vous donner une idée. Ça a pris beaucoup de centaines d'années à apprendre comment ça se fait et pourquoi il faut éviter. Chez nous, et moi, c'est une partie de quelques-uns de vous sans doute connaîtront l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Il y a quelque chose en commun avec ça. Mais en général, le moment clé chez nous, en Occident, en cette matière, c'est avec l'invention de l'hétérosexualité. J'espère que c'est évident pour vous que l'hétérosexualité a été inventée. Oui, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui pensent que avant c'était avec des signes, non des, comment s'appelle ça, les cigognes, avec les cigognes. Oui, jusqu'au XVIIe siècle avec les cigognes. Mais vous comprenez bien que l'hétérosexualité dans le sens de sortir de l'homosocialité, c'est-à-dire où les garçons et les hommes développent ensemble et les jeunes filles et les femmes développent ensemble, c'est une nouveauté culturelle qui nous a formés. Et dans la mesure où ça a commencé à épanouir à partir du commencement du XVIIe siècle dans le nord de France, Pays-Bas, sud de l'Angleterre, où on a commencé à développer le mariage de partenariat, vous appelez ça mariage de compagnonnage, companionate marriage, on dit en anglais. Compagnonnage, où les gens se marient parce qu'ils ont choisi, parce que c'est le meilleur ami. C'est à partir de ce moment-là que l'hétérosocialité devient chaque fois plus commun. Et juste au point où nous imaginons que c'est normal, que les pays islamiques où c'est très minoritaire sont bizarres. Mais au contraire, c'est nous qui sommes bizarres dans l'histoire humaine. Nous sommes bizarres, en ce sens-là. On a inventé quelque chose qui est vraiment bizarre pour les cultures différentes. Et ce que ça a permis, c'est qu'on commence à détecter des gens qui, dans un monde homosocial, sont invisibles. Dans le monde homosocial, c'est très difficile de détecter qui est gay et qui est lesbienne, parce que c'est tout un monde de « don't ask, don't tell », on dit en anglais. Tout le monde fait « visto grosso », comment on dit ça? Est-ce qu'il y a un mot en français pour indiquer quand quelqu'un ne veut pas voir? Maître de zé, oui, surtout ça. Si on ne le dit pas, on ne le voit pas. Peut-être on peut dire. C'est la vie homosociale où, évidemment, la vie hétérosexuelle est vigilée. Il y a des chaperons et tout ça, et le mariage est organisé plusieurs fois, et la différence entre l'âge des mariés est très grande et tout ça. Mais chaque fois que s'hétérosexualise la société, il devient chaque fois plus visible qu'il y a des gens qui ne savent pas entrer dans le jeu. Et on commence à le détecter dans de certains clubs et pubs et lieux de drague. Et comme il y a ces gens bizarres, il y a le regard policier qui vient sur... Et entre le XVIIe siècle et le XXe siècle, il y a toute l'histoire des différentes manières de traiter ces gens bizarres que sont quelques-uns de nous. Surtout, vous l'appelez, je crois, le vice anglais. En général, on le perçoit très bien chez les autres et jamais chez soi. Nous avons des idées un peu pareilles sur vous. Mais la politesse, le jour de Saint-Jean d'Arc, ne permet pas de le dire. Mais en général, c'est vrai, on perçoit toutes ces choses dans les cultures, des autres cultures, et non pas dans le propre. C'est bien, c'est normal ça. Mais petit à petit, ceux qui étaient au commencement, c'était des traîtres et des hérétiques, avec le changement du monde, sont passés à être des questions criminelles, qui ont passé à être des choses médicales, et après, dans le 19e siècle, à une question psychologique, avec l'invention de psychologie. Et c'est à partir de là, vraiment, qu'on commence à se demander qu'est-ce que fait que ces personnes sont comme ça. Tout en imaginant qu'il avait quelque chose abîmé chez nous. Il avait une pathologie de quelque type. Soit une vice, soit une pathologie qui nous abîmait. Donc, ce qui est bizarre, que c'était vraiment seulement après les deux guerres mondiales qu'il y avait une masse de gens de ce type démobilisés dans votre pays, dans le mien, en Allemagne, aux États-Unis. C'était la grande démobilisation des gens qui avaient trouvé des gens comme eux sous armes. Et ça, c'est une chose très importante que nous sachions. Pour que on apprenne des choses, il faut avoir des mouvements sociaux qui mettent des choses en évidence. Imaginez-vous, si vous êtes un garçon, une jeune fille de, je ne sais pas, un petit village près de Puy-de-Dôme. Il n'y a pas personne comme vous. Vous ne connaissez pas personne comme vous. Vous craignez ce qui vous êtes. Mais vous êtes obligé à faire le service militaire ou à travailler dans une fabrique d'armement. Et il y a des personnes comme vous. Comme on dit en anglais, I'm not the only gay in the village. Je ne suis pas la seule folle au village. Et trouver des gens comme soi-même, c'est très très important. Et après la guerre, avec la démobilisation, il y a des mouvements, des gens, à ne pas retourner chez le village près du Puy-de-Dôme, ou son équivalent en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, et à se trouver dans des grands centres urbains, où il y avait autres gens comme eux. Et c'était là où ils ont commencé à être visibles pour les étudiants. Les premiers grands étudiants de cette matière étaient allemands. Ils ont trouvé masse de gens à Berlin et dans les autres parties de la République Weimar. Après la Première Guerre mondiale, ils ont commencé à étudier. Et tous leurs livres et les études ont été brûlés avec l'arrivée des nazis au pouvoir. Donc on a perdu presque tout. Les premières études scientifiques. La première fois où on commençait à voir des gens, non pas comme problème, qui, si tu veux, c'est encore la manière du bouc émissaire. Ah, il y a des gens, s'ils sont comme ça, c'est un problème, il faut résoudre le problème. La facile, plus facile de résoudre, c'est de le jeter dehors. Mais se demander, eh bien, c'est bizarre, ces gens-ci ne se présentent à nous comme des problèmes, ni comme des patients, ni comme des malades. Qu'est-ce qui leur fait fonctionner? C'est là la question scientifique, enfin. Et c'était après la Deuxième Guerre mondiale que ça a vraiment pu avancer, surtout aux États-Unis, mais avec la même chose. Une grande démobilisation de personnes qui a permis, pour première fois, les psychologues, les psychiatres, de se demander, eh bien, on pensait qu'il y avait quelque chose pathologique en commun. Toutes ces gens doivent avoir quelques souffrances pathologiques qui doivent être les mêmes. Le premier Freud, vous souvenez, avait pensé qu'il y avait quelque chose de paranoïa au fond de tout homme gay. Et peut-être si on était gay à Vienne en 1890, il y avait des raisons pour un peu de paranoïa. Mais en général, ça n'a pas été évident après. Et c'était là, dans les années 50 aux États-Unis, qu'enfin les médecins ont reconnu qu'il n'y a pas aucune pathologie intrinsèque à l'orientation sexuelle pour le même sexe. C'est un moment très important parce que c'est l'équivalent de la sortie des sorcières. C'est le moment où il cesse d'être un problème et on peut voir les causes sociaux d'autres types. On peut se demander qu'est-ce qu'il y a ici et non pas quel est le problème à résoudre en le rejetant dehors. Et pour moi, ça c'est un élément de cette question qui est absolument central pour la question de conscience de chacun de nous. Parce que si on est gay, si on est lesbien, une des choses par laquelle on passe, c'est se demander, est-ce que je suis en train de me décevoir? Est-ce que de me tromper? Est-ce que ce n'est pas tout simplement d'hédonisme ou d'une manière de penser qui me permet d'avoir une vie sexuelle très riche mais pas du tout réglée? Est-ce que c'est tout simplement une manière de m'auto-tricher? Ou est-ce que je suis comme ça? Et pour la question de la conscience, c'est très important de savoir si il s'agit tout simplement de se tricher ou de nous tricher. Vous n'êtes que des personnes intrinsèquement hétérosexuelles avec une grave désordre objectif qui s'appelle attraction pour le même sexe. C'est ce qu'il nous dit. Les congrégations romaines à ce moment, n'est-ce pas? Presque littéralement. Est-ce que c'est vrai ou non? Pour moi, dire, eh bien, les scientifiques disent ça, n'est pas suffisant. Je crois que la manière où c'était possible apprendre à dire ça est très important. Parce que ça montre que c'est le procès d'apprentissage qui est chrétien. C'est l'œuvre de l'esprit. C'est dans la mesure où on n'a pas fait la chasse aux sorcières, où c'était possible se demander qu'est-ce que se passe ici et reconnaître que c'est une chose réelle, qu'on est, dans des mots que j'emploie souvent, on est porteur d'une variante minoritaire et non pathologique dans la condition humaine. Variante minoritaire et non pathologique dans la condition humaine, c'est comme être gaucher, c'est une variante minoritaire et non pathologique qui était jadis considérée comme pécheur, comme désordre, n'est-ce pas? Et maintenant, on dit non, c'est pas du tout. Le fait qu'on écrit un livre avec la main gauche ne le fait ni pire ni meilleur que si c'est écrit avec la main droite. En effet, il y a des gens dont le cerveau est comme ça. Nous avons ça. Pourquoi c'est important ça? Parce que dans la vie de la foi, ces questions viennent avec la conscience. La conscience ne saute pas des étapes. La conscience veut savoir si ce que quelqu'un dit est vrai ou pas. Parce que la conscience cherche toujours la vérité. C'est le petit Ratzinger qu'on a dedans, si on est théologien catholique. Pour ça, c'est très très important. La conscience est surtout la conscience pour la vérité. Est-ce que c'est vrai que je ne suis pas vraiment gay? Je suis un hétéro, mais avec une grave désordre objectif, ou est-ce que c'est vrai que je suis tout simplement une personne gay, comme cet être une personne gaucher avec des yeux bleus ou marrons, je ne sais pas quoi. Mais la question de la vérité sur cette question est absolument importante. Parce que selon ce que je suis, j'agirai. En bon latin, suivant le petit Ratzinger, agere sequitur esse. C'est le principe de la morale catholique, comme vous savez. On actue selon on est. Donc, la question en chrétien, si est-ce que je serai chrétien et je deviendrai saint et j'irai au ciel malgré ce que je suis ou à partir de ce que je suis. Dans la version sacrificielle, c'est malgré ce que je suis. Si c'est dans la version que je vous ai expliqué, c'est à partir de ce que je suis. Ce qui ne serait pas nécessairement moins sacrificiel. Mais le sacrifice n'a rien à voir avec l'homosexualité, mais avec le témoignage. Et ça, c'est très, très important, les distinctions qu'on fait dans cette petit champ. Est-ce que c'est vrai qu'être hétérosexuel, être homosexuel et être un hétéro abîmé, ou est-ce que ce n'est pas vrai? Selon ce qui est vrai dans ce cas, le bien agir est capable d'être épanoui par la grâce. C'est la grâce, en effet, qui fait ça épanouir. La miséricorde de Dieu se fait présent comme épanouissement à partir de ce qu'on est. On apprend avec les erreurs et tout ça, on fait des péchés, mais c'est à partir de ce qu'on est qu'on devient celui qu'on sera. Deuxième question de conscience qu'on fait face à, c'est bien, ok, surtout chez les jeunes qui ne connaissent pas trop la morale catholique, tout simplement ils savent qu'il y a l'Église qui dit des choses mauvaises sur les gays, et en général ils ne sont pas très confiables. C'est pas à cause de la connaissance de la doctrine, mais tout simplement par les habitudes, les coutumes qu'ils ont écoutées ou reçues de la famille. Donc, si une fois on a trouvé, eh bien, c'est ce que je suis, donc l'épanouissement deviendra à partir de ça. Et ça, c'est une question qu'on aurait dit scientifique. La différence entre la pensée bouc émissaire et la pensée pas bouc émissaire, c'est la différence scientifique. Donc, est-ce que je suis en crise avec l'Église? Moi, je dirais non. Pourquoi? Est-ce que l'Église ne dit pas des choses terribles sur cette question? Oui, l'Église pense qu'elle dise des choses terribles sur question. Mais pourquoi? Parce que l'Église n'a qu'un seul enseignement en cette matière morale, qui est que la relation sexuelle entre deux personnes mariées est bonne quand elle est ouverte à la procréation. En matière sexuelle, ça c'est l'enseignement de l'Église. Entre deux personnes mariées, du sexe opposé, l'acte sexuel qui est ouvert à la procréation est bonne. Toute autre chose, c'est une déduction négative a priori, à partir de cet a priori. Donc c'est à partir de ça qu'on déduit que l'emploi du méthode anticonceptive, on dit ça, contraceptif entre les hétéros, c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils empêchent que l'acte devienne à sa finalité complète, qui est la procréation. Et c'est un peu la même chose chez les gays. On dit que les actes entre des personnes de même sexe ne peuvent jamais, pour beaucoup connaissez, arriver à produire des bébés. Et on a essayé. Donc c'est vrai, ça c'est vrai. Ça n'arrive pas. Faites des expériences sont toujours importants dans ce sens-là. Et pas seulement l'acte, on dit, chez les gays, mais le fait même que leur manière de désirer est pour une personne avec laquelle ils ne seraient jamais pas capables d'avoir un bébé, ça veut dire que leur relation même est désordonnée. Eh bien, tout ça veut dire que la seule manière que l'Église a de parler sur nous, des personnes gays ou lesbiennes, c'est une déduction a priori à partir de l'acte marital. Une déduction négative. Il n'y a aucune autre source de révélation, de tradition, d'écriture sur cette question qui compte. Même la congrégation de la doctrine de la foi reconnaît maintenant que les textes que je vais étudier avec vous le samedi n'ont pas rien à voir. Les fameux textes qu'on emploie typiquement pour donner des petits tapes sur la tête des gens gays n'ont pas rien à voir. La commission biblique pontificale est très maintenant disait oui, c'est vrai, c'est pas nécessaire qu'on traite de ces choses-là. La seule déduction, la seule manière de parler de nous vient d'une déduction à partir d'une acte marital. Ce qui est possible si on est vraiment des hétéros abîmés. Mais à partir du moment où on trouve et apparemment avec véracité qu'il existe quelque chose que nous appelons l'orientation sexuelle vers des personnes du même sexe, qui n'est qu'une variante minoritaire, pas pathologique. Donc, en principe, comme on est catholique, et la création est une chose bonne, ça a une tendance innée vers la gloire de Dieu. Ce n'est pas tout simplement une chose négative. Et si c'est vrai, ça veut dire qu'en vérité, en toute logique, l'Église n'a pas d'enseignement stricte dictu sur cette question. Parce que ses seules références sont des passages d'écriture qu'elle-même reconnaît qu'elles n'ont pas à voir, et, en termes anthropologiques, avec une déduction a priori de l'acte marital. Eh bien, en bonne conscience, est-ce que quelqu'un qui a découvert être un porteur d'une variante minoritaire, non pas pathologique, dans la condition humaine, doit accepter d'être engueulé par quelqu'un qui refuse de lui reconnaître comme il est. Et ici, on est très très près de la question synodale. C'est la question, est-ce que nous pouvons parler de ces questions? Parce que si on dit, eh bien, à vous, je ne peux pas vous parler parce que, pour moi, vous n'êtes pas ceux qui vous disent qui vous êtes. Pour moi, vous êtes un E. E, E-U-E-X, n'est-ce pas? Un E, des personnes qui souffrent d'une grave tendance désordonnée, objectivement désordonnée. Et c'est comme si vous êtes des ivres qui croient que vous êtes Napoléon ou quelque chose, autre chose, j'importe quoi. Vous croyez que vous êtes des personnes porteuse d'une variante minoritaire pas pathologique. Et avec ça, vous dites, c'est à nous d'apprendre comment nous relationner et comment vivre en bon chrétien. Mais si je dis non, je ne peux pas vous parler. Si vous êtes tellement ivre que vous pensez que vous êtes là, c'est parce que vous ne comprenez pas rien. Vous avez été déçu par l'esprit de l'âge. Quelque chose comme ça. Mais moi, je sais. Parce que le magistère dit que c'est comme ça. Comment on commence à dialoguer? Pour moi, la question, c'est la véracité se montre avec la tranquillité de conscience. S'il y a une vraie tranquillité de conscience, on n'a pas peur d'être rejeté par des gens qui ont peur de nous, et peut-être dans plusieurs cas, dans notre Église, peur d'eux-mêmes, ce qui est une des complications de l'Église en cette matière, c'est que il ne manque pas à nos hiérarques la connaissance en première personne de ces réalités. Ce qu'il manque, c'est une capacité de pouvoir en parler de manière adulte. Et pour moi, la question synodale, et vraiment c'est partie du processus synodal en cette matière, c'est arriver à trouver une manière de pouvoir parler de ça de frère en frère, de sœur en sœur, de sœur en frère, de frère en sœur. Où on accepte la réalité chrétienne qui est qu'il n'y a pas aucune voix paternelle ou magistérielle qui est sur nous, au-dessous de nous. La voix du vrai maître est entre nous. Le magistère de l'Église est censé être signe, un peu illustré, de cette présence entre nous, mais à niveau fraternel. Et c'est ça que le pape François a tellement bien développé en Amoris Laetitia. Parce qu'il indique très clairement que l'Église ne peut jamais, le magistère n'est pas au-dessus de la personne, il peut aider à former. Mais avec ça, ça passe par une vraie conversation. Et c'est pour ça que, sur la question des divorcés remariés, l'idée de l'Église est, eh bien, il faut avoir un dialogue avec les personnes pour découvrir comment ils sont trouvés dans cette situation. Mais en principe, ils ont fait de bonne conscience, donc c'est ouvert à la communion. Ce qui a fait trembler des gens qui voulaient que tout ça ait été par un magistère venu dans nous. Mais le pape François raconte que non, le magistère est fraternel, non pas paternel. Il n'y a pas de voix paternelle dans l'Église. La seule voix de Dieu est fraternelle. Et avec ça, on est un peu dans la même situation pour la question LGBT dans l'Église. Dans la mesure où des autorités commencent à reconnaître que ces questions sont à parler entre nous. On passe d'être, si vous voulez, des cas de conscience individuelle et on commence à voir qu'il y a une réalité sociologique qui est là-bas. Que ce n'est pas seulement cette personne bizarre qui pense qu'il est porteur d'une variante minoritaire et non pas pathologique, et qu'il ne croit pas qu'il est un hétéro abîmé. Que le travail de conscience, peut-être, lui a fait dire vrai, et dire vrai en chrétien. Et dans la mesure où on ne chasse pas la sorcière, on peut découvrir la météorologie. On peut découvrir un peu ce qui est vrai. Et avec ça, vous commencez à comprendre mieux la vie familiale, toute une série de relations. En plus, comme vous savez très bien, je crois que c'était un illustre jésuite, je ne sais pas, cette maison ou non, Gustave Martelet, il était ici, un grand jésuite, qui a dit au pape Paul VI, à l'époque de Humanae Vitae, qu'il ne s'il laissait tomber le lien entre l'élément procréatif et unitif de la relation sexuelle, l'Église n'aura pas de raison logique pour critiquer l'homosexualité. C'est-à-dire exactement la même logique. Une fois qu'on reconnaît, et ça c'est une chose bizarre, mais crois-moi, je crois que c'est vrai. Au moment où on laisse tomber le lien entre la relation procréative et la relation unitive, on n'a pas de raison logique pour condamner l'homosexualité. Mais ça veut dire qu'au moment où on découvre qu'il existe des êtres humains dont la vocation sexuelle, émotionnelle, qu'il leur est déjà donnée par sa variante minoritaire comme acte de création, et donc en principe bonne, n'a pas la possibilité de la procréation. Donc c'est très difficile d'insister que les hétéros doivent maintenir le lien. Pourquoi est-ce que la vie hétéro doit être plus sacrificielle que la vie des hommes? Il avait raison, le père Martelet, mais ça veut dire exactement à l'inverse. S'il y a des personnes qui sont comme ça, ça veut dire que, en toute probabilité, la relation entre la corporalité humaine et la procréation n'est pas ce qu'elle était censée être par la biologie du deuxième siècle, à l'époque où Clément d'Alexandrie nous a donné la doctrine que nous avons jusqu'à maintenant. En plus, on sait beaucoup plus de biologie que ce qu'on savait au deuxième siècle. Pour ça, je crois que dans un moment où il y a un grand effondrement dans l'Église, en grande partie, on l'a vu avec le CIAS et tout ça ici, mais ce n'est pas unique en France. En Espagne, c'est pire. Les évêques, là, ont leur tête comme des démons. C'est autruche, comment on dit ça? Oui, ouais, mais très profondément, profondément plongé dans le sable sur ces questions. On voit l'effondrement qui en partie est produit d'une incapacité de reconnaître la réalité de ces choses et de parler entre adultes. Et pour ça, de ne pas pouvoir juger des situations concrètes des gens selon ou bien le sérieux ou bien le pas du tout sérieux. Mais si on est dans le monde homosocial, où il faut surtout ne pas voir et ne pas écouter, on ne sait pas si ce qu'on n'est pas en train ni de voir ni écouter est une chose de garçon méchant ou c'est une chose pathologique et criminelle. Ça, c'était un peu le thèse de Frédéric Martel et de moi-même. La thèse aussi du sociologue italien, comment s'appelle-t-il, qui a écrit le livre Le caste des chastes. Que si on habite dans un monde mensonger, on ne voit pas la réalité. Une fausse bonté empêche la connaissance. La fausse bonté empêche la connaissance. Être pardonné pour la fausse bonté ouvre à la connaissance. C'est terriblement important, ces questions. S'il va avoir Église chrétienne catholique dans le futur, j'ai la petite impression que le témoignage des gens qui ont dû passer par l'épreuve de trouver que la foi est vraie, même dans les circonstances sacrificielles de l'Église, auront un très bon credo à partager avec le monde. Avec ça, je me ferme. Merci.
Dominique, je crois que tu voulais prendre le micro. Ouais, je sais pas si tu veux dire quelque chose déjà. Sinon, tu...
Ah oui.
Ça marche pas. Ah, oui, oui. Je voulais vous remercier infiniment pour cette présentation qui est très importante. Nous sommes dans une maison où nos étudiants ont des cours de théologie morale, de théologie morale fondamentale. Cette question-là est abordée. C'est une question qui traverse des cultures très différentes dans l'Église, avec des étudiants qui viennent de contextes culturels très très variés et dans laquelle les postures ecclésiales sont encore parfois très verrouillées sur ces questions. Donc je trouve très important de nous inviter à oser parler. Le pape François souvent souligne la parésia, oser parler en vérité entre nous pour chercher ces éléments, pour s'éclairer mutuellement et pour faire un pas de plus dans cette compréhension des enjeux qui touchent le cœur de notre foi. Je n'irai pas plus loin, mais merci vraiment de ramener la question sur ces enjeux, de chercher la vérité pour pouvoir en parler et en débattre. Donc la parole est à vous. Pour des questions, Pierre, tu as le micro.
Je porte le micro.
Alors, pardon si je suis la seule à pas savoir, mais ça veut dire quoi, unitive ?
Unitive.
Ah, peut-être c'est un mot anglais que j'ai employé, la différence entre faire l'amour pour aimer bien une personne et faire l'amour pour avoir des bébés. La bonne idée, c'est que les deux choses vont ensemble. Mais il y a aussi la possibilité de faire l'amour pour faire du bien au couple sans que ça ait la possibilité de bébé. Donc ça serait la séparation entre la fonction procréative et unitive. Merci. Ok, pardon. Ouais.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une première question toute simple et je suis désolée de vous la poser à un grand spécialiste comme vous, mais que j'aimerais m'assurer de bien comprendre le thème central du sacrifice dont vous nous avez parlé et qui est très présent dans notre foi, du salut, de la rédemption, etc. Et est-ce que vous pourriez nous réexpliquer en quelques mots ce que René Girard entend par sacrifice avec l'histoire du bouc émissaire, pour qu'on comprenne comment, parce que nous, les homos, les lesbiennes, on voit bien un peu le principe de la majorité qui a peur de la minorité, de la différence, tout simplement. Et cette tendance à rejeter ceux qui ne rentrent pas dans la majorité, avec aussi une dimension de pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il dit René Girard sur le sacrifice et sur le bouc émissaire qui peut nous aider à comprendre, nous, les mécanismes en œuvre dans la société, dans l'Église, dans d'autres cultures, peut-être plus dans l'hémisphère sud.
Non, c'est très très bonne la question. Et pardon de ne pas l'avoir déjà fait. Son idée, l'idée de base avec René Girard sur ça, c'est une hypothèse sur la formation de la culture humaine. Nous sommes des singes, qui ont su survivre notre violence d'une manière violente. C'est la base de sa pensée. Pourquoi ? Des singes qui s'imitent, c'est bien. S'il y a quelqu'un qui est chargé, un mâle alpha ou quelqu'un qui par instinct n'est pas détruit par le groupe. On voit chez des singes, des simiens qui sont comme nous, que le pouvoir des alpha mâles, c'est chaque fois moins et chaque fois sujet à politique chez le groupe, surtout chez les chimpanzés qui sont un de nos cousins plus proches. Mais l'idée de Girard, c'est que ce qui nous fait différents d'eux, c'est que nous sommes beaucoup meilleurs comme imitateurs. Nous imitons beaucoup meilleur que nos cousins singes plus proches, même les bonobos et les chimpanzés. Et c'est notre capacité d'imitation qui, dans un moment donné, il y a centaines de milliers d'années en Afrique, aurait altéré notre capacité instinctuelle d'arrêter de nous tuer. Si on s'imite trop bien, on a le risque que, pour n'importe quelle chose, l'imitation peut devenir rivalité. S'il n'y a pas quelqu'un de fort, d'extérieur, ou un instinct pour nous empêcher de nous tuer, si on s'imite très bien, on se lutte aussi très bien. Parce que la rivalité n'est que l'imitation dans sa version négative. Donc le risque de tous contre tous est vrai. Dans une horde de singes qui sont très bons imitateurs. Mais quand il y a des tous contre tous, on voit que parfois, pas toujours, mais parfois, il y a des moments exceptionnels où ça devient un tous contre un. Que de quelque façon, le groupe réussit s'unifier en paix contre quelqu'un et le jette dehors en le tuant. Et à partir de ça, ils commencent à savoir comment empêcher que leur violence le détruit. Ils le répètent, on arrive à faire les rituels, les prohibitions, et quand arrive le langage, qui est beaucoup de milliers d'années après, les mythes. Ça veut dire que on pense, ce qui est typique chez les religions archaïques, ça serait, selon Girard, que l'unité qui croit vraiment dans la méchanceté et le pouvoir de celui qui a été chassé. Pourquoi? S'il est là maintenant comme cadavre et nous sommes en paix, c'est parce que, en effet, c'était lui qui était le sèmeur de zizanie chez nous. Donc il était très puissant avant. Mais maintenant qu'il est disparu, il nous a donné la paix. Donc il est aussi très puissant. Mais il a une puissance qui est de double visage. Comme le dieu Janus, le dieu romain Janus. Parfois, il nous trouble et parfois il nous bénisse. Il faut que nous lui offrons quelque chose pour, pour maintenir la partie bénédiction et maintenir loin la partie troublante. Grosso modo. Mais ça veut dire qu'il y a une tendance chez les humains de croire que en nous réunissant contre quelqu'un, nous sommes des bons. Et celui qui est chassé, c'est le mauvais. Que nous avons raison à chasser quelqu'un. Surtout si on devient paisible après avoir chassé quelqu'un, c'est signe que la chose a fonctionné. Et donc, c'est une déception. On se triche, basiquement. Girard appelle ça méconnaissance. Et la différence qui fait l'évangile, c'est qu'il empêche la méconnaissance. À partir de l'expérience des Hébreux, qui petit à petit commence à questionner la culpabilité de la victime, et qui arrive en pleine force avec l'évangile, où le lynchage est très visible. Et il y a des mots comme « vous m'accusez sans cause », « ismontéi sans cause », c'est-à-dire on montre que la victime est innocente. Et c'est ce qui ont fait les Romains et les Juifs le meilleur système légal et le meilleur système religieux de l'époque. Ils n'ont pas su éviter le dynamisme de la foule. Donc, la voix de la victime innocente, c'est celui qui dit « Eh bien, vous avez fait ça. Apprenez maintenant à ne pas la faire au futur. Moi, je serai votre pierre d'achoppement devenue pierre de... Comment s'appelle ça?
D'angle.
Pierre d'emblée de... Pierre d'angle de nouveau temple et tout ça. Nous avons tout ça. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que nous avons l'expérience, je crois, comme lesbien, comme gay, de vivre parfois le mécanisme du bouc émissaire. Dans mon expérience, premier lieu, comme participant à la foule, pour éviter être celui vers qui le doigt a pointu, je savais très bien me faire agréable à la foule pour que le rage tombasse sur quelqu'un même pire que moi. C'est-à-dire, c'est la tendance que j'ai eue, je ne sais pas. Chez les Français, vous n'avez pas le péché originel, mais les Anglais, on a ça un peu. Et c'est terrible, mais il s'agit de, je ne sais pas à quel âge, en mon cas c'est dans 10, 11, 11 ans, mais cette phase où on sait et on ne sait pas ce qu'est en train de faire, le moment où la conscience morale commence à devenir claire. Est-ce que je peux me tricher un peu plus en pensant que ce que je fais est mauvais, ou est-ce que c'est tout simplement nécessaire pour survivre? Mais on sait très bien que le doigt allait tomber sur le PD de la classe, la folle de la classe. Et ça n'a rien, à cet âge, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. On ne sait pas du tout que ça n'a pas rien à voir avec le sexe. C'est pré-puberté. C'est quelqu'un qui n'est pas comme nous. C'est l'autre. Je ne suis pas comme lui. Ou comme elle. Et on m'a dit que même dans les écoles des jeunes filles, c'est la même chose. La dynamique n'est pas totalement différente dans ces choses-là. Donc je crois qu'il y a une expérience morale de savoir très bien comment ça fonctionne. Et une fois que Girard nous montre ce que nous sommes en train de faire quand nous faisons ça, on peut dire, eh bien, je vois jusqu'à quel point ma compréhension de moi-même a été formée par cette sacralité condamnée, terrible, qui voulait que je devienne autre chose. Et comme j'ai voulu être autre chose pour survivre, et comme j'ai déchargé le poids de ma peur contre cette personne. Mais à la fois, à la mesure où on comprend, ce n'est pas ce qui aurait fait le petit Jésus. Au moment où on commence à penser à ça, on dit, eh bien, c'est vrai, si je veux suivre le petit Jésus, donc, c'est accepter d'entrer dans cette place et porter les conséquences. Bien avant que ça n'ait rien à voir avec le sexe. Et je crois que ça, c'est ce qui est très important. Quand on nous dit, typiquement, « Ah, mais l'homosexualité, c'est une croix que vous devez porter. » Ça, c'est le demande de faire un sacrifice de soi-même. C'est la version païenne du sacrifice. Il y a un élément en toi que tu dois sacrifier, tu dois le tuer en toi-même. Mais il y a l'autre version. Non. En découvrir ce qui vous êtes et devenir une personne honnête, généreuse, libre, etc., etc., vous serez témoin à une réalité où on essaiera de vous crucifier. Et c'est là que vous porterez votre croix. Vous voyez la différence entre la manière christique de la sacrifice, du sacrifice païen, et la manière christique de l'autodonation de soi au milieu de la violence humaine pour témoigner la bonté de Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Même phrase, deux compréhensions complètement différentes. Donc, j'espère que ça aide un peu. Pardon, la réponse est trop longue, mais j'espère que ça aide un peu.
Merci. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il ne s'agit pas d'une pathologie, tant que la science n'a pas établi que l'homosexualité est pathologique. Mais par contre, vous insistez sur l'anomalie. De toute façon, vous n'avez pas abordé la problématique de la cause. Puisque c'est une anomalie, il y a une cause. Et cette cause pourrait peut-être être traitée, étudiée, etc. Moi, je suis une mère de famille assez âgée, beaucoup d'expérience, et je me suis occupée de beaucoup de jeunes, de mouvements sociaux, etc. dans ma vie. Et je voudrais témoigner de quelque chose de très important. J'ai connu des homosexuels jeunes et des lesbiennes aussi jeunes. Et toutes les confidences que j'ai reçues m'ont confirmé que ces garçons et ces filles ont été détournés et déformés par des adultes. Et cela m'a beaucoup, beaucoup travaillé au niveau de l'éducation que l'on fournit à nos enfants. C'est donc au niveau de l'éducation qu'il faut chercher à aider les enfants avant qu'ils ne tombent dans les anomalies, puisque ce n'est pas de la pathologie. Merci.
La grande difficulté avec ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hétéros qui ont été maltraités dans leur développement infantile aussi, sans que ça leur fait gay ou lesbien. Je crois, selon l'évidence scientifique qu'on a, que maintenant, vraiment, ils ne pensent pas, les scientifiques, que l'orientation sexuelle peut être changée après la naissance. Évidemment, la manière de le vivre peut changer. Mais les évidences scientifiques, je ne veux pas imposer ce que n'est pas une chose que moi je ne suis pas scientifique, je suis théologien, c'est autre type de science. Mais ce que j'ai lu suggère que le dernier élément par lequel on pensait qu'il pouvait avoir quelque chose d'effet postnatal dans l'orientation sexuelle, c'était par ce qu'on appelle l'ordre fraternel, fraternal birth order. Oui, c'était une chose, une statistique sociologique qui a été trouvée dans tous les continents. Chez les mâles, non pas chez les femelles, c'est-à-dire chez les garçons et non pas chez les jeunes filles, qui dit que selon la quantité de frères aînés que tu as, c'est plus probable que tu sois gay. C'est-à-dire dans une famille de 7 garçons, s'il y a 7 garçons, la possibilité de qu'un de eux soit gay augmente avec chaque frère. C'est un élément statistique petit, mais vrai, et indépendant de culture. Il y avait un moment, donc, on pensait, les scientifiques pensaient que peut-être c'était à cause d'un mimétisme fraternel. C'est-à-dire que si on croit avec 6 frères, moi, j'imagine moi le 7e, j'adore mes frères tellement que ça altère mon enjeu sexuel. Je deviens... mon amour pour eux devient érotisé. Et ça serait un élément mimétique post-naissance. Mais ceux qui ont découvert, ils ont fait des expériments très intéressants en cette matière, ils ont découvert une chose qui change tout ça, c'est que si des frères sont séparés à la naissance, donc le 7e frère croit dans une autre famille et non pas avec ses 6 frères aînés, il y a la même possibilité qu'il devient homosexuel. Bon, non, au contraire. C'est ce que ça suggère, c'est exactement le contraire. Il suggère que c'est indépendant de la question de l'éducation. Et c'est une question, c'est ce qu'il dit maintenant, c'est une question intra-utérine. Il y a un élément intra-utérine. Mais vous avez raison, la causation exacte n'est pas connue. Pour la morale catholique, la question de la causation exacte, la cause, l'éthiologie, on dit, n'est-ce pas, n'est pas tellement important comme le devenir. Ce n'est pas d'où on vient, mais vers où on va. Ce qui est important, c'est Saint-Augustin qui dit ça, parce que il avait beaucoup d'arguments sur le péché originel, et il arrivait au moment où il est devenu fatigué par tous ces arguments, il a dit, ce n'est pas tellement important d'où on vient, c'est vers où on va, ce qui est important. Et ici, la question, c'est le devenir. Et là, la question de l'élément pathologique vient. Est-ce qu'il a un élément pathologique intrinsèque à cette orientation sexuelle? Ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont vécu des expériences pathologisantes, terribles. Mais, selon les médecins et les psychologues qui ont essayé de trouver, jusqu'aux années 50, ils ont essayé de trouver la pathologie qui serait intrinsèque à l'orientation sexuelle, ils n'ont trouvé pas aucune pathologie qui soit intrinsèque. C'est-à-dire que toutes les possibles pathologies, y compris de l'éducation, des troubles enfantiles, etc., se trouve très chez les homos comme chez les hétéros. C'est-à-dire, si vous me permettez un bon petit anglo-saxon, on est également émerdé. Mais l'émerdement ne vient pas de l'orientation sexuelle, mais des circonstances qui vous dites et qui sont capables de recevoir une bonne éducation. Mais une bonne éducation sur un gamin qui deviendra gay ne lui quittera l'orientation sexuelle. Peut-être lui aidera à ne pas faire tellement de bêtises dans sa capacité d'apprendre à aimer. Et c'est ça qui est important. Beaucoup de nous avons beaucoup de difficultés à établir des relations stables, dans la vie. Surtout les prêtres, hein. Mais la grâce aide ça. Ne quitte pas l'orientation sexuelle, mais produit la capacité de générosité, de stabilité, de ne pas avoir besoin de, comment on dit ça, attraper pour soi-même l'autre, pouvoir se donner, des choses comme ça. Mais c'est très délicat. L'éducation est très importante, mais apparemment, l'éducation ni donne ni quitte l'orientation sexuelle. Nous aide à le vivre de meilleure manière, sans doute.
On va prendre une autre question.
James Allison, merci beaucoup de votre intervention. Je pense que beaucoup ici se réjouissent qu'une telle conférence puisse avoir lieu ici. Vous avez évoqué le fait que, sur le plan strict, l'Église, finalement, sur la question, la réflexion est une seule référence. Enfin, la seule référence, voilà, sur le sujet, c'est une déduction négative de la question maritale, avec des conséquences liées aux actes sexuels et également à la protection lors des actes sexuels. Vous avez dit qu'une commission pontificale s'était prononcée sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez développer ce point? Bon. Et deuxième micro-question, peut-être un peu par humour, vous avez dit à un moment, Est-ce qu'une personne LGBT doit accepter d'être engueulée par quelqu'un? Est-ce que vous pourriez aussi développer ce développement du mot?
Pardon pour le mot engueulée. Bon, sur la première question, une des grands secrets, curieusement, je parle beaucoup de ces questions chez les églises protestantes, et ils n'imaginent pas combien c'est bonne la théologie de Sainte Écriture chez les catholiques, surtout après le Concile Vatican II, avec le Dei Verbum. Et le Commission Pontificale Biblique vraiment a donné des documents très bons sur comment lire la Bible. Il y a un document formidable de l'année 83, signé par Joseph Ratzinger, parce qu'il était le préfet de doctrine à l'époque, où il parle exactement comment éviter le fondamentalisme. Il y a tout un chapitre sur comment éviter. Il dit, il ne faut pas surtout actualiser des textes dans un sens qui va contre la charité. C'est-à-dire, il y a des mots et des choses qui sont décrites qui peuvent être transférées direct au monde moderne. Et des gens le font. Mais s'ils le font, ils sont en train de trahir la vérité de ce qui se passe. C'est-à-dire, la traduction fondamentaliste est vraiment une trahison et non pas une traduction. C'est très important. Et là, le lieu classique pour ça, c'est le mot « les juifs » dans l'évangile de Saint Jean. C'est-à-dire, ils disent littéralement, ils disent que c'est inacceptable qu'on pense que le mot Judaioi, dans l'évangile Saint Jean, peut être correctement traduit par le sens moderne du mot les juifs. Parce que le mot Judaioi avait un différent sens à l'époque, c'était pas tellement ethnique comme il l'est maintenant, et beaucoup plus idéologique, par exemple. Ce qui ne permet pas à des gens modernes de l'employer de manière antisémitique. Eh bien, ils l'attendaient comme une des possibles références dans ce sens-là. Et ils ont pris encore un pas avec un document qui a été lancé l'année dernière ou avant-dernière, qui s'appelle en italien « Che cos'è l'uomo ?», où ils ont touché de nouveau sur ces questions, et ils ont vraiment dit que la lecture des fameux textes que j'avais traités le samedi à la barouillère, que vraiment, ils n'ont pas rien à voir avec ce que nous appelons l'homosexualité. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons l'homosexualité, le mot a été inventé par un Hongrois allemand, par un Hongrois autrichien, en 1869, pour décrire un type de personne. Mais cette manière d'entendre les choses n'existait pas dans le monde ancien. Il y avait toute une série d'autres manières de comprendre ces réalités qui avaient beaucoup à voir avec et le pouvoir et la violence. L'idée de deux personnes qui sont des égaux sociaux, sont égales en termes sociaux, qui ne sont pas des parents et qui sont égales socialement, puissent avoir une relation d'amour entre eux, n'était pas jamais contemplé. Parce qu'il n'y avait que différence de pouvoir et d'âge et de richesse, sinon d'esclavage, dans ces récits anciens. Eh bien, c'est ça un peu la première question. Et, curieusement, un des fruits de ces documents, quelque chose est loin, mais c'était la dernière fois que le Vatican s'est prononcé sur la question gay, que c'était pour dire, si vous me permettez, c'était leur bêtise sur la question des bénédictions, d'il y a 18 mois. Au moins, dans la manière où ils ont dit que ce n'est pas, on n'est pas permis de faire des bénédictions pour les couples du même sexe, ils n'ont pas cité la Bible une seule fois. Ça, c'était la nouveauté du document. C'était l'essai de maintenir la doctrine sans citer la Bible. Parce qu'ils savent très bien que la doctrine ne vient pas de la Bible. Au moins, ils ont eu l'honnêteté de ne plus essayer de dire, avec toute l'appui d'une lecture multimillénaire des Saintes Écritures, on condamne tout ça. Non. Ils savent très bien que c'est une déduction a priori de l'acte marital qui leur enlève à cette position. Et pardon, votre seconde question, c'était... Ah, anglais. Ouf, pardon, c'est mon mauvais français. C'est difficile à arriver à pouvoir se parler de manière fraternelle sur ces questions. Il y a des gens qui ne savent pas quoi dire sur ces questions parce qu'ils ont assumé le masque de nous pour lesquels on est un « eux ». Et donc, même qu'ils ne veulent pas être méchants, leur approche est violente. Et c'est très difficile pour nous de dire, eh bien, je comprends. Mais, vous êtes en train de parler avec des gens dont le voyage à la bonne conscience en cette manière peut être expliqué pas pour pas. Mais votre voyage pour maintenir votre doctrine du second siècle ne peut pas être expliqué de manière historique plus. Comment est-ce que vous allez parler avec nous pour démontrer que ce que vous dites est vrai? Parce qu'on n'accepte plus que tout simplement par le fait que vous le dites que c'est vrai. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. Si vous voulez nous éduquer, vous dites que vous êtes des pasteurs. Parlez-nous en vrai. Et si vous ne pouvez parler en vrai, dites-le. Grâce à Dieu, maintenant, il commence à avoir des évêques qui commencent à dire, c'est vrai, on ne sait pas quoi parler sur ces thèmes. C'est pour ça que récemment, l'évêque Bonny d'Anvers a donné de très bons interviews où il dit que même au Vatican, ils savent très bien qu'il faut changer l'enseignement de cette matière. Et ils savent aussi que c'est une des principales raisons pourquoi la jeunesse est en train de fuir l'Église. Et ce n'est pas parce que la jeunesse est terriblement gay, c'est parce que la jeunesse est terriblement noble. Et tous sont des amis qui sont soit gays, soit non-binaires, soit trans, soit, toutes ces choses. Et ils parlent de ça avec une honnêteté complète. Et pourquoi aucune personne dans l'Église est capable de témoigner, au moins de vivre ça de manière honnête? Et donc, ils cherchent l'honnêteté dans autre lieu. Donc, il y a des personnes, des évêques, des cardinaux qui savent ça. Mais aussi, ils savent quel prix ils vont payer s'ils commencent à parler vrai. On m'a dit que, vous savez très bien, que le jésuite Olerich, qui est le cardinal archevêque de Luxembourg, qui a parlé de manière très sage sur ces questions, mais il a reconnu que l'enseignement vient du deuxième siècle et n'est plus capable d'être cru. La compréhension de la biologie humaine à l'époque était absolument différente d'une autre. Souvenons-nous que pendant plus de 2000 ans, on a cru, c'est-à-dire à partir entre Aristote et le Moyen-Âge, la fin de le Moyen-Âge, commencement de l'époque moderne, on a pensé que la femme ne contribuait pas rien à la reproduction, elle est tout simplement le lieu où était déposité le réceptacle du petit homoncule, on dit ça. Et en plus que le genre de l'enfant qui naîtrait dépendrait et de la direction du vent et de l'humidité. C'est-à-dire, si le vent venait du nord et il avait une certaine manque d'humidité, l'être parfait naîtrait, c'est-à-dire le mâle. Ici, le vent venait du sud et il avait un peu plus d'humidité, l'être imparfait naîtrait. C'était la femelle.
James, on va peut-être prendre une dernière question, si tu veux.
Pardon. Pardon.
Enfin, je ne vais pas te couper au milieu de...
Non, mais c'est important de savoir ces choses-là. Pardon, ouais.
Merci beaucoup pour votre intervention. Deux merci. Je viens de aussi finir une dissertation sur l'homosexualité et l'Église aujourd'hui.
Ah.
Je vous ai beaucoup cité. Ah. Merci beaucoup pour vous étiez bien référencé. N'inquiétez pas. Deux questions et s'il n'y a pas le temps pour les deux, ça va. La première touche, je pense encore cette question de le document de le Conseil pontifical biblique. Où on trouve, je pense, une Bible qui, en fait, ne parle pas de l'homosexualité, plutôt des actes homosexuels faits par des hommes hétérosexuels, et pas, en fait, de l'homosexualité comme état, parce que, comme vous avez dit, ça n'existait pas. Quand même, l'enjeu que j'ai trouvé était cette conception de l'altérité.
L'altérité.
Entre homme et femme, qui on trouve au début dans la Genèse. Et cette altérité homme-femme qui, dans un sens, reflète la relation entre l'être humain et Dieu. Et cette demande de Dieu de soyez féconde et multiplier. Et cet enjeu qui est resté pour moi comme l'Église dirait, la fondation de sa compréhension de le rapport entre l'homme-femme, procréativité et tout cela. Donc ça, c'est la première question. Et juste brièvement, la deuxième question que je trouve souvent, on essaie de défendre notre place dans l'Église, de justifier que oui, voilà, l'homosexualité là, et on peut être une partie de l'Église. Si on accepte que l'homosexualité est une réalité, que c'est là, en fait, que peut apprendre l'Église de l'homosexualité?
Eh bien, la première question sur l'altérité. Il y a beaucoup de différences entre dire homme et femelle, c'est mâle et femelle, il les a créés, si on pense qu'il s'agit de deux choses distinctes, qui n'étaient pas distinctes à ce moment-là, au moins en Genèse, et qui c'est exclusif de quelque chose, ou si ce sont les termes de paramètres où toute une série de choses sont incluses. Apparemment, je ne suis pas expert au monde hébreu, mais apparemment, quand il y a cette binaire de ce type, ce n'est pas à interpréter de manière binaire, c'est d'interpréter comme paramètre d'une totalité. Donc, en principe, ça veut dire avec toutes les variantes qu'on a, et non pas seulement ça. Mais surtout, c'est important de dire que de la même manière où les rabbins, les écriteurs saints, les auteurs saints qui ont écrit et édité le livre de Genèse, de la même manière où ils ne pensaient pas faire de l'astronomie, ou de la géologie, ou de la zoologie, qu'ils ne pensaient pas faire de la biologie non plus. Et je crois que c'est très important de se rendre compte de ça. En plus, et c'est une chose qui est difficile pour nous de nous souvenir en chrétien, parce que il y a surtout depuis Jean-Paul II un essai de ré-binariser la foi, avec toute cette... enseignement sur la complémentarité, d'essayer de refonder une biologie chrétienne sur cette base, que au Galates, je crois que c'est au Galates, la phrase de saint Paul n'est pas « Vous êtes ni homme, ni juif, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni livre, ni homme, ni femme, mais vous n'êtes plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni livre, et non plus homme et femme. C'est-à-dire, il nie Genèse, parce qu'il cite délibérément Genèse. Ce n'est pas un trio typique. Il cite Genèse pour dire, c'est non plus. Maintenant, on a la possibilité de devenir un en Christ, pour citer quelqu'un, quelques groupes, d'une manière nouvelle. Mais pour moi, la question n'est pas ça. Pour moi, la question est pratique. Comment, dans des relations d'amour avec quelqu'un de même sexe, avoir l'altérité? Dans mon expérience, c'est très difficile. C'est très difficile d'aimer quelqu'un, n'importe pas du tout leur genre. Je crois que l'autre est toujours un défi pour nous, indépendamment de si c'est de notre même genre ou non pas. Je crois qu'il y a des différents types de défis. Mais penser que, comme on est du même genre, il n'y a pas d'altérité, je crois que c'est mal entendre la difficulté de cohabiter avec n'importe qui. Et c'est très important que nous nous rendions compte de le défi d'aimer quelqu'un avec toutes les difficultés que ça peut... Je ne sais pas si c'est un commencement de réponse, mais je ne sais pas. C'était quoi la deuxième? Ah. Bon, c'est un peu ce que je disais sur cette question. La grande difficulté en tout ça, c'est parler. Je crois, pour moi, la difficulté de l'Église n'est pas le sexe. Si vous me permettez de dire, tout le monde sait baiser. C'est pas compliqué. Ça a changé très peu pendant les derniers siècles. En pouvoir parler, c'est ça la difficulté. Ça a commencé, si vous voulez, avec l'invention du romain, avec Don Quichotte. Ça a avancé beaucoup plus avec l'invention de la psychologie dans la fin du 19e siècle. Et maintenant, nous pouvons parler de ça. Mais on oblige le caste sacerdotal à ne pas avoir la possibilité de parler de ça. Parce qu'en thèse, ils doivent parler l'expérience qui est nécessaire pour pouvoir parler de ça. C'est fictif, on le sait très bien, mais la difficulté, c'est apprendre à parler bien. Donc, à la mesure où nous découvrons, dans un certain sens, la banalité de l'homosexualité, ça aide à désacraliser l'élément sexuel, qui c'est de donner l'importance juste comme partie d'un projet de vie qui comprend pouvoir parler honnêtement, être transparent, être constructeur d'autrui. Pour moi, la difficulté, c'est parler.
Juste rajouter un petit quelque chose, presque à la première personne, sur cette question d'altérité. Pendant longtemps, avant de connaître suffisamment, de manière suffisamment personnelle, un certain nombre de gays, au fond, j'aurais volontiers adhéré à cette petite musique qu'on entendait au sein du monde catholique. Les gays ont un problème avec les femmes, un problème relationnel. C'est-à-dire que c'est pas simplement la question des rapports sexuels, c'est pas la fécondité, etc. C'est au plan psychologique. C'est un refus de l'altérité, mais dans un sens bêtement relationnel. Et en fait, d'après ce que je peux voir, c'est absolument faux.
Oui, non, la misogynie n'est pas liée à l'homosexualité, malheureusement. Peut-être. Mais ça n'a rien à voir. La misogynie est... Ouais. C'est très compliqué, mais ça, ouais, mais tu as complètement raison. Merci pour ça.
On va prendre la toute dernière question.
Alors merci. Moi, c'est juste un témoignage en complément. Deux choses. D'abord, sur l'éducation, j'ai plusieurs enfants. Ils ont été éduqués pareil, une éducation plutôt genrée, catholique, classique. J'ai un homo et les autres ne le sont pas. Donc je pense que l'éducation n'a pas joué là-dessus. Et la deuxième chose sur ce que les homosexuels peuvent apporter à l'Église, alors là c'est très profond chez moi, c'est que ce chemin que j'ai fait avec ma fille homosexuelle m'a évangélisée d'une manière incroyable. C'est-à-dire que j'ai rencontré des groupes gays, je reconnais des personnes, des têtes que j'ai saluées ici, des personnes qui ont un attachement à l'Église, à la foi, au Christ, que j'avais pas. Voilà, c'est tout. Donc, les personnes gays, je peux le dire, sont des facteurs d'évangélisation incroyables.
Oui, je crois un peu la même chose, parce que j'ai voyagé partout le monde, pendant les 30 années, en parlant de ces choses à des petits groupes, ici, en Australie, en Afrique du Sud, en Chili, en Bolivie, en Colombie, en Argentine, Mexique, blablabla. Et pour moi, c'est les confesseurs de la foi, dans le sens ancien. Dans l'époque patristique, les confesseurs étaient ceux qui avaient maintenu la foi sous la persécution de l'Empire romain. Ici, ce sont ceux qui ont maintenu la foi malgré la persécution de l'Église romaine. Et ça, la capacité de pouvoir témoigner d'une vraie foi chrétienne qui est passé par le cible. Dis ça, le cible? Par le cible, ou le crisol. Le crible. De toute une médisance, on dit ça?
Oui.
Ça, c'est la possibilité d'une nouvelle évangélisation. Et c'est pour ça que je prie à des gens qui ne pas désespérer de l'Église, mais d'essayer de former des communautés de foi intentionnelles pour pouvoir partager la foi, joyeusement ce que nous sommes, pour pouvoir partager ça, parce que, c'est-à-dire jouer sur le vieux champ de football, il n'y a plus d'herbe. Maintenant, il commence à avoir de l'herbe sur notre petit champ de football, et c'est très bien.
Merci beaucoup, James, pour cette belle conférence. Merci à tous aussi pour la qualité de vos questions. Je vous rappelle juste qu'en sortant, vous trouverez tout un stand avec beaucoup de livres. Et voilà, puisque on n'a pas fini d'explorer notamment la question de ce qu'on peut apprendre, cette fameuse voie d'accès vers le credo. Bon, là, on a vu qu'il y avait quelque chose de très fort à partir de la vision du sacrifice qui renouvelle une porte d'entrée dans la foi. On pouvait aussi entendre que peut-être notre vision du Père pouvait légèrement changer. Voilà, certainement il y a d'autres choses. Plusieurs livres de James Allison sont en vente, notamment le fameux « La foi au-delà du ressentiment » où il y a de très beaux commentaires d'évangile. Donc n'hésitez pas à les acheter. Et puis, eh bien, je crois qu'on peut simplement finir. Ah, si vous avez tellement aimé que vous voulez donner beaucoup d'argent, ni à James, ni à moi-même, mais au Centre Sèvres, il y a certainement une corbeille qui doit être présente à l'entrée. Bonne soirée et merci beaucoup James. Merci.